France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Alors qu'Israël a lancé une attaque massive contre l'Iran vendredi dernier, faisant des dizaines de victimes militaires et civiles, alors que l'Iran réplique et que les bombardements, l'occupation de l'État hébreu se poursuivent par ailleurs à Gaza, alors aussi que jeudi dernier l'opposition a échoué à dissoudre le Parlement, lumière ce soir sur les oppositions au gouvernement de Benjamin Netanyahou. Quelles sont leurs forces, leur ampleur, leur poids? Les résistances viennent-elles de la société ou de l'opposition politique? Pour tenter d'y répondre, un invité ce soir, Ilan Grailsamer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue et militant pacifiste israélien, vous êtes enseignant au département de sciences politiques de l'université Bar-Ilan, vous êtes l'auteur de nombreux essais et notamment le sionisme qui a paru aux presses universitaires de France. Je précise que vous venez de faire paraître dans la revue numérique AOC cet article intitulé « Israël, que faire ?». Merci d'être venu ce soir à Question du Soir.
Nous avons des pré-notifications 10 minutes avant. Oui, on vient d'en recevoir une, on doit se rapprocher de l'abri.
Nous sommes allés dans l'abri, la sirène retentissait. Il n'y a pas d'abri dans notre immeuble, donc nous sommes allés dans un autre immeuble. Nous avons entendu un gros boom après le déclenchement de la sirène. Nous avons vu des flammes, c'est la pagaille à l'extérieur.
L'Iran paiera un lourd tribut pour le meurtre de civils, de femmes et d'enfants qu'il a commis intentionnellement. Nous atteindrons nos objectifs et nous les frapperons. Nous leur porterons un coup décisif.
Les propos tenus par Benjamin Netanyahou hier après-midi et une précision, quelques chiffres. En Iran, selon le ministère de la Santé iranien, 224 personnes ont été tuées depuis le début de l'attaque israélienne commencée dans la soirée du 13 juin. En Israël, les attaques lancées par Téhéran contre plusieurs villes ont fait 16 morts, 500 blessés, endommagé plusieurs quartiers par ailleurs. Ilan Grailsamer, est-ce que la société israélienne soutient son premier ministre dans les attaques lancées en fin de semaine dernière en Iran?
Bon, encore une fois, je pense que tout dépend du sujet. L'opposition existe, il y a une forte opposition à Netanyahou en Israël, mais tout dépend sur quoi. Il y a eu, je le rappelle, une très forte opposition aux réformes judiciaires antidémocratiques que Netanyahou voulait faire, de grandes manifestations de rue, qui ont d'ailleurs bloqué cette réforme. Puis, sur la bande de Gaza, il y a des manifestations pour la fin de la guerre et le retour des otages. Et là, la question de l'Iran est différente. Il y a beaucoup plus d'unanimité dans la société israélienne sur un point, sur le fait d'empêcher l'Iran d'atteindre définitivement des capacités nucléaires, la bombe. Là-dessus, ce n'est pas la même chose que sur Gaza ou la réforme judiciaire. Il y a beaucoup plus d'unanimité, même si je trouve que dans les deux derniers jours, il y a de plus en plus de questions qui sont posées par les Israéliens. C'est-à-dire, quelle va être la suite ? Très bien, on a vraiment frappé l'Iran dans son cœur militaire et gouvernemental, mais quelle est la suite ? Est-ce que les États-Unis vont se joindre ? Est-ce que on sait quelle est la sortie de crise ? Là, il y a pas mal de questions, mais il y a beaucoup plus d'unanimité quand même sur cette question de l'Iran et du nucléaire.
Alors justement, si je décortique ce que vous dites, est-ce que l'idée qui est partagée en Israël, c'est notamment celle selon laquelle le nucléaire iranien, le programme qui est en train d'être développé, pourrait représenter une menace existentielle, c'est l'expression qui revient très très souvent, menace existentielle pour Israël?
Oui, la réponse est oui. La réponse est oui, je pense. À mon avis, il y a une unanimité en Israël sur le fait qu'un Iran tel que nous le connaissons et avec le gouvernement qu'il a et les orientations qu'il a, un tel gouvernement qui aurait la bombe nucléaire, oui, c'est une menace existentielle pour Israël. C'est quand même un gouvernement Téhéran qui tous les jours sans arrêt dit Il faut détruire Israël, il faut détruire les habitants d'Israël, et l'entité sioniste, comme ils disent. Donc il y a là une menace. La question est de savoir si on choisit la voie militaire ou la voie de la diplomatie, ou les deux.
L'autre question, c'est de savoir si la riposte iranienne pourra tempérer ou affaiblir cette unanimité. On sait déjà que la réplique est forte, hein. J'ai donné quelques chiffres, 16 morts, 500 blessés en Israël. Est-ce que cette unanimité pourrait s'effriter, notamment peut-être dans la dimension de soutien du Premier ministre qui privilégie, on l'observe, la voie militaire ?
D'abord, je dirais qu'il ne s'agit pas là d'un soutien à Netanyahou, d'un soutien au Premier ministre. Si je me prends comme exemple, je fais partie des intellectuels israéliens qui sont résolument dans l'opposition à Netanyahou. Il s'agit de savoir si Israël peut et doit empêcher un nucléaire iranien. Et là-dessus, nous sommes tous d'accord pour dire que oui, il faut empêcher ça à tout prix. Maintenant, vous posiez la question des pertes israéliennes. Non, je ne crois pas qu'à ce stade, bien qu'il y a eu vraiment ces dernières nuits des destructions importantes, des morts et des blessés, je ne crois pas que ce soit ça qui tempère en quelque sorte l'ardeur des Israéliens. Non, ce qui tempère un peu l'ardeur, c'est la question où est-ce que ça mène, cette histoire ? Qu'est-ce qui va se passer demain, après-demain, dans une semaine ? Il semblerait aujourd'hui que les Iraniens, quand même très, très durement touchés, demandent à revenir à la table des négociations avec les États-Unis. Et il est possible que les coups qui ont été portés vont faire que l'Iran aura une position, je dirais, plus de compromis sur la question de l'enrichissement de l'uranium sur son sol ou d'autres questions qui sont en suspens. Donc il est possible que cette action militaire mène essentiellement, je l'espère, l'Iran à proposer des compromis.
Je voudrais maintenant qu'on s'intéresse, Ilan Grieshammer, à la question de Gaza. 55 000 Gazaouis ont été tués depuis le début de la guerre, selon le ministère de la Santé de Gaza. Est-ce qu'un débat public existe aujourd'hui dans la société israélienne sur les bombardements israéliens à Gaza, sur l'occupation israélienne à Gaza, ou bien ce débat public, sa qualité, sont difficiles ?
Ce débat existe, mais il est très difficile pour un certain nombre de raisons. La première, c'est qu'Israël est toujours sous le coup du traumatisme des massacres du Hamas du 7 octobre 2023. Je sais que ailleurs, en Europe, en France et un peu partout, on a un peu tourné la page et il s'agit d'autres choses maintenant, d'autres questions, d'autres problèmes. Mais en Israël, le 7 octobre est encore, c'est aujourd'hui, c'est encore extrêmement présent. Il y a le souvenir de la Shoah qui est dans cette histoire aussi, qui est extrêmement important et central dans la culture politique israélienne. Donc c'est quelque chose qui empêche d'une certaine façon ce débat. La deuxième, et qu'on a dit, et qui est très vrai, qu'il faut rappeler, c'est que les Israéliens ne voient pas les mêmes images que celles que vous voyez sur vos télévisions à l'étranger. On a beaucoup moins vu les images de destruction et de mort, etc., en Israël qu'on ne l'a vu ailleurs. Donc quand vous parlez de débat, c'est un débat qui est faible parce que ce n'est pas au centre même des préoccupations et des médias. Donc la question en ce qui concerne les destructions à Gaza est plus aujourd'hui d'arrêter ou non la guerre. Il y a un mouvement croissant en Israël, surtout parce qu'on pense qu'on ne peut pas être sur deux fronts différents, l'Iran et Gaza, mais il y a de plus en plus d'Israéliens qui demandent la fin de la guerre et surtout, du point de vue israélien, le retour des otages détenus par le Hamas. Mais encore une fois, ce n'est pas le même débat du tout que celui auquel vous assistez en dehors d'Israël.
On va venir à la question des otages et à la place que cette question occupe dans le débat public israélien. Mais vous parlez, Ilan Grail-Samer, des images que les Israéliens voient, observent à la télévision. Quelles images observent-ils cependant sur leur téléphone portable, sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils n'ont pas accès à ces images parce qu'ils ne les cherchent pas, mais cela m'étonnerait? Ou bien simplement c'est plus difficile pour eux d'accéder à ces images qui traversent nos téléphones à nous et nos réseaux sociaux ici en Europe?
Non, je crois que vous connaissez la technologie israélienne, tout le monde a accès à tout.
C'est pour ça que je suis étonné.
C'est difficile. Non, mais je parle quand même des grandes chaînes de télévision israéliennes. Tout le monde en Israël regarde à 20h les chaînes, telle ou telle chaîne. Et sur les chaînes de télévision, il y a eu quelques images de destruction, mais pas beaucoup. Rien à voir avec ce que l'on voit à l'étranger. Alors les gens savent cela. C'est encore anesthésié ou tétanisé par les massacres du 7 octobre qui les hantent toujours. Et ça atténue sans doute beaucoup, à mon sens, peut-être la compassion ou la solidarité à l'égard des populations, de la population de Gaza, alors que en dehors d'Israël, il n'y a que ça pratiquement aujourd'hui au centre du débat. Pensez, pour un Israélien, moi je l'explique à mes étudiants, puisque j'enseigne la civilisation française, je leur parle par exemple des positions de votre parti, la France Insoumise, et mes étudiants me disent « mais comment est-il possible qu'un parti français, qui devrait s'occuper des affaires françaises, ne s'occupe que de Gaza ?» J'ai du mal à répondre là-dessus, mais ça montre bien l'absence d'équivalent ou de synchronie entre ce que vous voyez et ce que les jeunes en Israël voient.
Sur la question des otages, deux corps d'otages à Gaza ont été récupérés le 12 juin dernier. Il resterait aujourd'hui encore 56 otages dans la bande de Gaza. Une vingtaine d'otages seraient encore vivants. Quoi cette question occupe-t-elle, parce qu'elle a longtemps occupé une place importante, notamment grâce à la pression effectuée par les familles sur le gouvernement israélien? En quoi cette question occupe encore une place importante dans le débat public?
Alors, c'est une question très importante. J'y réponds tout de suite en disant que c'est une obsession. C'est une obsession en Israël, ce retour des otages, qui est parfois mal comprise à l'étranger, puisque vous parlez de 55 personnes, dont d'ailleurs la plupart sont des corps. Face aux 55 000 tués dans la bande de Gaza. Et les gens disent, mais enfin, quel est le rapport? Bon, mais ça n'a rien à voir avec le chiffre. Ça a à voir avec le fait que, encore une fois, les otages, c'est le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est les otages, et c'est un énorme traumatisme de la société israélienne. C'est quelque chose de collectif, de très profond, et je crois que l'État d'Israël ne sera pas ce qu'il est, ne pourra pas être ce qu'il est, si le gouvernement ne ramène pas ses otages incessamment. Et comme le prix, c'est l'arrêt de la guerre à Gaza, ce que nous demandons, l'opposition à Netanyahou, c'est l'arrêt de la guerre et le retour de tous ces otages vivants ou morts. C'est quelque chose de fondamental pour la société israélienne.
Je voudrais vous faire entendre la voix, Ilan Grail-Samer, de Nitzan Perelman-Becker, docteur en sociologie politique à l'université Paris-Cité. Elle était invitée dans l'émission de France 5 « C'est dans l'air » le 30 mai dernier.
On voit beaucoup de manifestations de la gauche, donc de la gauche radicale, beaucoup de manifestations, mais vous avez bien vu à Haïfa qu'il s'agissait donc côté d'une vingtaine de manifestants. Est-ce que je dis toujours pour expliquer à peu près qu'est-ce que représente cette gauche radicale israélienne? Le 30 mai 2024, un institut américain, The Pew Institute Research, publie un sondage et il montre que seulement 4% des juifs israéliens considèrent que la guerre à Gaza est allée trop loin. Ça veut dire que cette gauche qui se trouve entre la gauche radicale et la gauche sioniste, qui est vraiment contre la guerre, vraiment contre les crimes qu'Israël commet à Gaza, représente 4% ou moins des juifs israéliens.
Une réaction, Ilan Grelsamer, sur ces chiffres. Est-ce qu'ils vous surprennent d'abord et comment les expliquer ?
Écoutez, je pense que ce que dit la personne interviewée, c'est plus grave que de dire d'être en désaccord. Je pense que ça n'a aucun sens. Il est très clair, au vu des manifestations en Israël, pour les otages et pour la fin de la guerre, puisque c'est la condition du retour aux otages, qu'il y a une grande partie des Israéliens aujourd'hui, qui souhaitent la fin de la guerre à Gaza et le retour de tous les otages. C'est pour qui vit en Israël et pour qui participe aux manifestations, c'est clair. Est-ce que ça veut dire, encore une fois, que les gens sont, je reprends ces termes, solidaires ou sensibles au drame que vivent les habitants de Gaza? Non, mais ils souhaitent que la guerre se termine et qu'on en finisse avec cette histoire qui est sans fin et qui vient servir purement et simplement des intérêts politiques et les intérêts politiques de Netanyahu.
En mars dernier, le président du parti Les Démocrates, Yair Golan, ancien chef d'état-major adjoint, on se souvient de lui d'ailleurs, et de sa bravoure le 7 octobre dernier, a été accusé d'antisémitisme après avoir dénoncé un pays, je cite, « faisant la guerre à des civils, ayant pour hobby de tuer des bébés », fin de citation. Comment est-ce que vous raconteriez ce qui s'est passé autour de ces déclarations? Est-ce que c'est pour vous l'illustration du fait que Yair Golan a été trop loin, ou bien que la qualité du débat public en Israël au sujet de Gaza se voit profondément dégradée?
Non, je dirais la chose suivante. Yair Golan est le chef de la gauche, israélienne aujourd'hui. C'est le chef du Parti des démocrates. Pour ne rien vous cacher, c'est le parti que je soutiens et j'espère qu'aux prochaines élections, quand elles auront lieu en Israël, ce parti fasse le meilleur score possible. Il n'empêche que, excusez-moi de l'expression, mais Yair Golan s'est laissé emporter à dire des conneries lors d'une interview que j'ai d'ailleurs entendue à la matinale de la radio israélienne. C'est absurde, bien évidemment. Il y a énormément de morts, et notamment des enfants, dans la bande de Gaza, mais personne en Israël ne prend plaisir, et sûrement pas, en parlant de passe-temps, la mort d'enfants, ni dans la bande de Gaza, ni ailleurs. Et il a été, Yair Golan, extrêmement critiqué en Israël, et de toutes parts. Il a essayé de s'excuser, mais permettez-moi de dire que ce n'est pas le seul homme politique d'importance et d'envergure qui, quelquefois, dise des choses complètement sottes et absurdes.
Je voudrais faire entendre cette fois-ci un extrait diffusé sur France 24 qui raconte l'échec de la dissolution de la Knesset. Je voudrais ensuite vous interroger sur la dimension politique de l'opposition en Israël.
En plein cœur de la nuit, le résultat tombe enfin. Les députés israéliens rejettent l'idée d'une dissolution à une très courte majorité.
Cela n'a pas été approuvé, ça sera retiré du programme d'aujourd'hui.
D'abord, ils n'ont pas été capables de diriger le pays. Ensuite, ils n'ont pas été capables de gérer la sécurité ni l'économie. Et maintenant, ils ne peuvent même plus se diriger eux-mêmes. Voilà à quoi ressemble l'effondrement.
On vient de l'entendre, la Knesset a rejeté jeudi 12 juin au matin à une courte majorité un projet de loi présenté par l'opposition visant à sa dissolution. Est-ce que cela aurait pu être fécond, cette dissolution, Ingrid Grelsamer? Si je pose la question d'une manière plus directe, est-ce que cela aurait pu permettre de dissoudre le gouvernement de Benjamin Netanyahou?
Alors, la coalition de Netanyahou, la raison pour laquelle il est au pouvoir, c'est que les partis ultra-religieux le soutiennent, font partie de sa coalition. Si les partis ultra-religieux se retiraient de sa coalition, ils tomberaient, il n'y aurait plus de gouvernement, il n'y aurait plus de Netanyahou, et d'après les sondages, il ne reviendrait pas à ce poste de Premier ministre après des élections. Donc, il était extrêmement important de savoir ce que font, ce que vont faire ces partis ultra-religieux. Or, eux, ça ne les intéresse pas, ni Gaza, ni l'Iran, ni quoi que ce soit. La seule chose qui les intéresse, c'est que leurs jeunes, qui étudient toute la journée les Écritures, la Torah, le Talmud, puissent continuer à le faire sans être mobilisés dans l'armée israélienne. Donc ce qu'ils voulaient obtenir de Netanyahou, c'est une loi exemptant, et je dirais définitivement, leur masse de jeunes de tout service militaire au moment où l'armée israélienne, quel que soit le front, a besoin d'eux. Donc ils ont menacé jusqu'à la dernière minute Netanyahou, ils se sont probablement rendus compte en dernière minute que Netanyahou et le Likoud sont probablement la meilleure chose de leur point de vue. Si le gouvernement tombe et que la gauche ou le centre-gauche monte au pouvoir, ils n'auront absolument plus aucune possibilité de faire valoir cet objectif qui est leur objectif primordial. Donc, en dernière minute, je ne sais pas, on ne sait pas exactement ce que Netanyahou leur a promis, monts et merveilles, mais ils ont retiré leur volonté de dissoudre le gouvernement. Mais disons que ce n'est que partie remise. Les élections doivent avoir lieu en 2026, mais il est possible qu'elles soient avancées à l'hiver si les partis ultra-religieux se retirent.
Comment comprendre au-delà, Ilan Graelsamer, la faiblesse de la gauche israélienne aujourd'hui? Vous écrivez, je le disais, dans un article qui a paru dans la revue AOC, je vous cite, « Ce rétrécissement brutal de la gauche sioniste, démocrate, humaniste, sociale, partisane d'un rapprochement israélo-arabe et de la solution des deux États pour les deux peuples, est emblématique du processus de droitisation de la population israélienne. » Comment est-ce que vous expliquez ce processus-là?
Bien, ce serait trop long de l'expliquer, mais disons qu'il y a des aspects sociologiques à cela. Les populations comme les religieux, les ultra-religieux, également les populations qui sont originaires des pays arabes, ou ce qu'on appelle plus couramment les séfarades, sont des populations qui sont montantes au point de vue démographiques, ce sont des populations dynamiques. Or, ce sont des populations qui ont beaucoup moins de considération, je dirais, pour les signes traditionnels du régime démocratique, la Cour suprême, les garde-fous juridiques de la démocratie. Et il y a là un phénomène qui ne dépend pas tellement qui n'est pas tellement idéologique, en quelque sorte, mais le fait que aujourd'hui, qui vous trouvez à gauche en Israël, vous trouvez une population souvent âgée, souvent aisée, en général ashkénaze. Je crois que la ville de Tel Aviv est emblématique de cela, une ville de liberté ouverte, etc., etc. Alors que peut-être le symbole du contraire, c'est Jérusalem, c'est la religion, c'est la tradition. Et le fait est, à la fois sociologiquement et démographiquement, que les populations les plus, pas hostiles à la démocratie, mais disons pour lesquelles la démocratie est moins importante, eh bien, ces populations sont en croissance et en montée dans l'État d'Israël. C'est un phénomène qui date d'il y a longtemps, puisque la droite est montée au pouvoir en 1977 avec Begin, et en fait, mis à part la parenthèse de Rabin et d'Oslo, la droite est restée tout le temps au pouvoir, et en fait, la population israélienne tend de plus en plus de ce côté de l'échiquier politique.
Vous l'avez dit, hein, Ilan Graelsamer, les prochaines élections sont prévues en novembre 2026. Elles seraient peut-être avancées à l'hiver. En attendant, que peut faire l'opposition israélienne? En quelques mots, qu'est-ce que l'opposition a les moyens de faire même?
Ben écoutez, c'est le piège du régime démocratique. Quand les élections ont lieu normalement, c'est-à-dire de façon démocratique, des élections ouvertes, des élections sans coercition, sans corruption, etc. les gens votent pour un gouvernement et malheureusement, jusqu'aux prochaines élections, ou dans le cas français, jusqu'à la prochaine dissolution, il faut supporter ce gouvernement. Prenez les États-Unis, je m'excuse, mais les gens ont voté légalement pour Trump. Eh bien, Trump est élu pour 4 ans et il n'y a pas grand-chose à faire. Le régime démocratique ne supporte pas les putsch, ne supporte pas... Alors, il est possible qu'en Israël, la coalition finisse par se disloquer, mais en attendant, nous n'avons que les moyens démocratiques qui sont les manifestations de rue. Certains font la grève de la faim devant la Knesset, on écrit des masses de tribunes et dans les journaux, notamment dans le Haaretz, le grand journal israélien, mais on ne peut pas faire grand-chose en démocratie et on ne peut pas renverser le gouvernement comme certainement on le souhaiterait.
Merci beaucoup, Ilan Graël-Samer, de ces explications. Je rappelle que vous êtes politologue israélien. Je rappelle également le titre de cet article que vous signez et que vous avez fait paraître dans la revue numérique AOC, Israël, que faire ? Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Questions du soir.